franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le familistère de Guise. Il est dans le département de l'Aisne, un pays vert, de bocage et d'élevage, la Thiérache. Et dans ce pays, une ville à la campagne qui s'écrit Guise et se prononce Guise. Et à l'extrémité de cette ville, il est, depuis les années 1860, une terre d'utopie. Trois pavillons disposés en U, à la façon d'un château, où les ouvriers étaient censés vivre non comme des rois, mais comme des frères. Vaste système d'habitations, tout de briques vêtues, pénétrées de lumière. Spectaculaire, c'est un palais social. Digne, c'est un théâtre, c'est le familistère, fondé par Jean-Baptiste Godin, l'homme des poils, et réinventé depuis une douzaine d'années par un groupe de compagnons, parmi lesquels l'invité de la marche de l'histoire aujourd'hui, Frédéric Pagny. Bonjour.
Bonjour.
Mon panorama n'est pas tout à fait complet.
Il manque un certain nombre de choses, oui.
Il manque un pavillon, il y en a quatre et pas trois.
Il y a cinq pavillons en tout. Alors oui. Il faut imaginer ces trois pavillons dont vous avez parlé, ce château comme un palais social. C'est l'autre nom que Jean-Baptiste André Godin donne au familistère. Et autour de ce palais social, des services collectifs, une buanderie-piscine, des jardins, un théâtre, des écoles, un kiosque à musique.
Le théâtre, vous venez de le rouvrir le 17 juin. Il y avait combien d'habitants au maximum au moment de la mort du fondateur Godin?
Presque 1800 habitants au palais social, oui.
Et tout cela donc à Guise, la ville de Camille Desmoulins et de l'homme des poils et des cuisinières, vrai génie du foyer.
Elle a une vraie Godin, tout lui est confortable.
Avec une vraie Godin, tout devient agréable. Papa, 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 de mon Godin, tout passe sur ma table.
Et toujours délectable, qui vous veut du bien, vous conseille Godin.
Sauf qui dit Godin, dit qualité. Inutile d'aller à Paris, demandez-les dans le pays.
Voilà, qui dit Godin dit meilleur et moins cher à l'origine de cette marque qui existe encore, il y a 400 ouvriers à l'usine Godin de Guise, encore. Elle jouxte le familistère, un enfant du pays, la Thiérache.
Oui, Jean-Baptiste André Godin est né à une vingtaine de kilomètres de Guise, dans un petit village qui s'appelle Équerry. C'est là où il fonde ses premiers ateliers de fonderie en 1840 et qu'il dépose en juillet 1840 un brevet pour la fabrication d'un poêle en fonte de fer. Et c'est ce qui va faire la fortune de cet ouvrier qui est fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier,
serrurier. Compagnon du Tour de France.
Compagnon du Tour de France et qui va venir quelques années plus tard installer ses ateliers à Guise en 1846.
Alors le poêle et la cuisinière pour tout budget?
Pour tout budget. Le succès de la manufacture sera fulgurant. Ce jeune ouvrier devient un capitaine d'industrie extrêmement entreprenant à partir de cette idée de substituer à la tôle de fer, la fonte de fer pour la fabrication des appareils de chauffage et de cuisson.
Et puis l'émaillage de la fonte permet toutes sortes de décors plein de finesse et d'élégance.
Oui, la fonte est ductile, elle a un fort pouvoir calorifique, c'est sa principale qualité pour les appareils de Guise, mais aussi elle s'avère très décorative et les meubles chauffants de Godin vont devenir des objets de mobilier tout à fait remarquables quand ils seront émaillés, qui plus est.
Mais des gros meubles chauffants, on peut faire aussi beaucoup de petits produits dérivés.
Absolument, le catalogue de la manufacture sera rapidement très étendu. Tout ce qui se fabrique en fonte est proposé par la manufacture de Guise. Ça va du cendrier au crachoir, jusqu'à la cuisinière, jusqu'au porte-manteau, etc., etc.
Et d'une cuisinière miniature, on peut faire un encrier.
D'une cuisinière miniature, on peut faire un encrier ou d'un poêle miniature. Oui, tout à fait.
Et on fait beaucoup de profits, mais si Godin fait beaucoup de profits, c'est qu'il veut les consacrer à la réforme sociale. Et voilà l'originalité du personnage. Au début de sa vie, c'est le temps des révolutions politiques. Il va assister à Paris à celle de 1848. Au début de sa vie, c'est le début de la révolution industrielle, de la naissance du prolétariat. Et dans ces années, il va découvrir les socialistes utopistes, comme les héros de Flaubert, à la même époque, le font Bouvard et Pécuchet, ici interprétés par Marielle et Carmet.
Demain, la vie humaine sera plus longue.
On commandera au climat, on dirigera les nuages.
Et la nuit, il pleuvra sur les villes pour les nettoyer.
Les navires traverseront les mers polaires dégelées.
Les femmes seront à tout le monde.
Allez, viens, il faut nous mettre au travail.
Les femmes seront à tout le monde. Imaginez que tous les désirs puissent être réalisés, que celui qui aime masser les pieds rencontre librement et volontairement celle qui aime se faire masser les pieds, selon la tradition de la traction universelle. Alors, il y a un socialiste utopiste qui incarne cette tradition, c'est Fourier. Il est déjà mort quand Godin le découvre en 1842, de son vivant, si on en croit cette interprétation du grand acteur qu'est Jean-Marie Serrault, il se serait exprimé ainsi.
Avant moi, l'humanité a perdu plusieurs mille ans à lutter follement contre la nature. Moi, le premier, j'ai fléchi devant elle en étudiant l'attraction, organe de ses décrets. Elle a daigné sourire au seul mortel qui l'eût encensé. Elle m'a livré tous ses trésors. Possesseur du livre de mes destins, je viens dissiper les ténèbres politiques et morales. Et sur les ruines des sciences incertaines, j'élève la théorie de l'harmonie universelle.
Alors imaginez le choc que représente Fourier. Autant les ouvriers sont contraints de vivre dans la misère, d'habiter dans des taudis. Il dit qu'il y a possibilité de libérer nos désirs et que le travail lui-même entre dans le cercle de l'attraction et du désir.
Oui, Charles Fourier se présente comme le Newton de des sciences humaines. C'est utopiste et se considère comme l'inventeur des sciences sociales. Aucun des fourieristes ne se déclarera utopiste parce que Fourier a découvert les lois qui gouvernent les sociétés humaines, comme Newton a découvert les lois qui gouvernent le monde physique. Et le travail est au centre de la théorie fourieriste, de la doctrine fourieriste, mais le travail
sans
par
le
plaisir,
devoir, sans
le travail par attraction, le travail, l'attraction passionnée, c'est cela qui doit conduire nos aspirations au travail.
Il ne trouvera pas de mécène, Fourier, il attendra tous les jours au Palais Royal le mécène, mais vous parlez de ses disciples, il y a une école sociétaire autour de lui et qui prolonge après sa mort ses idées.
Oui, le fourierisme sera remis en forme par les disciples de Charles Fourier. Les disciples vont faire le tri, dont Victor Considérant, le polytechnicien en tête, vont faire le tri dans la doctrine de Fourier pour la rendre praticable ou tout au moins acceptable par leur auditoire. Et la cosmogonie de Fourier, qui était évoquée tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé, ou une bonne partie de la théorie des passions de Fourier, donc de l'anthropologie de Fourier, va être passé sous silence au profit d'aspects plus présentables de la doctrine de Charles Fourier. Et c'est sans doute cet aspect plus présentable auquel Jean-Baptiste André Godin est sensible.
Alors notre ami Godin va participer de loin en le finançant, mais beaucoup, à un projet de Considérant. Il faut imaginer dans la ville de Dallas, au Texas, à côté de la ville, à côté des gratte-ciels, là où il y a des parkings, des zones chaînes industrielles et des supermarchés, il y a eu une colonie fournieriste en 1855.
Oui, il subsiste toujours un cimetière avec, où sont inhumés, où l'on voit les tombes des anciens colons, en particulier français, de cette tentative fourriériste phalanstérienne, car il s'agit d'aller fonder un phalanstère, donc ce palais imaginé par Charles Fourier, loin, là-bas, au Texas, dans ce qui naît à côté d'un hameau qui s'appelle à ce moment-là Dallas. C'est Victor Considérant qui, en exil alors à Bruxelles, se laisse convaincre par le grand fourriériste américain qui est Albert Brisbane d'aller faire une tentative de phalanstère au Nouveau Monde.
Alors, il n'y aura pas de phalanstère à Dallas, il y aura un familistère à Guise. Alors, essayons de replacer dans l'époque. Il y a le même débat urbanistique qu'aujourd'hui. Habitat extensif avec, pour les ouvriers, des cités, des petits pavillons, chacun dans sa famille avec son petit lopin, ou bien habitat collectif. Et au nom du modèle du phalanstère, le transformant en familistère, Godin choisit la deuxième solution.
Oui, Godin choisit le phalanstère, choisit la solution phalanstérienne qui va le traduire, il va réinterpréter les différents aspects de la doctrine de Charles Fourier, aussi bien pour ce qui concerne le travail que pour ce qui concerne l'architecture de l'habitat, que les sociétaires appellent l'architecture unitaire. Il la réinterprète pour élever le familistère sur les ruines de l'aventure du Texas. C'est l'échec de l'aventure du Texas qui va le décider à mener sa propre expérience près de sa manufacture à Guise.
Alors donc le familistère, la forme en U, une tour au centre. Une tour d'ordre, disait Fourier.
Une tour d'ordre.
Avec un observatoire.
Oui, tout à fait. Qui se traduit par un belvédère au familistère. Dans cette réinterprétation, Godin traduit la tour d'ordre par un belvédère, la rue galerie qui parcourt l'intégralité de ce palais qui est le phalanstère. Il la retranscrit d'une façon merveilleuse par ses grandes cours vitrées couvertes, avec ses rues suspendues sur trois niveaux qui parcourent l'intégralité du palais social du familistère. Cette architecture unitaire, il la rend possible véritablement. Il matérialise l'image qui a été diffusée de la doctrine de Fourier, l'image du phalanstère.
En plein Second Empire est constitué donc le pavillon central qui est devenu en partie musée aujourd'hui avec ses galeries, la grande verrière, la cour, et vont être distribués aux ouvriers de l'usine Godin, les premiers logements. Ici, c'est l'extrait d'un téléfilm de Paul-Louis Martin qui a été réalisé en 1985. C'est Jean-François Garot qu'on entendra dorénavant interpréter Jean-Baptiste André Godin.
Mes amis, un peu de silence, s'il vous plaît.
Mademoiselle Moret va faire l'appel des noms. Ensuite, on vous conduira dans les logements qui vous ont été attribués. Première chose, je vois que quelques-uns d'entre vous sont venus avec des volailles. Ici, malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a des règles d'hygiène que vous devez respecter pour le bien-être de tous.
Froissart Victor.
Oui, c'est moi.
Logement 288. Colin Gérard.
Oui.
Logement 254. Mérès Pierre.
Présent.
Logement 207.
Allez bien, Mérès, on est à côté.
Eh bien, allez les enfants, on y va.
En avant.
Et qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est la propre balayure. Et c'est M. Godin qui l'a inventé.
Oh, oh, Seigneur et Joseph!
Alors, notez le nom et retenez le son de la voix de Mademoiselle Moret, mais d'abord les habiletés techniques, la trappe à balayure.
Oui, le premier vide-ordure connu sur le continent européen sont les vide-ordures, les trappes à balayure, comme les appelle Godin, du familistère. À chaque palier de la construction, on peut aller jeter ces petites ordures ménagères dans ces cabinets qui se fermaient par eux-mêmes, dont les portes se fermaient par eux-mêmes.
Et Frédéric Pagny, Jésus, Marie-Joseph, l'eau courante.
L'eau courante à tous les étages de la construction par un système très ingénieux. C'est un prodige d'ingénierie. C'est une formidable machine à habiter ensemble, ce palais social.
Oui, qui est pensé dans tous ces détails. Quand on visite maintenant Guise, il y a une coupe technique qui présente les entrailles de la machine sociale.
Absolument.
La machine à habiter.
On a évidé sur toute la hauteur une travée de l'édifice pour en montrer les finesses de pensée et de réalisation.
La ventilation en ce temps de chaleur.
La ventilation naturelle, parce que le problème sous la verrière, c'est le problème d'un air qui pourrait s'échauffer. Donc la question que résout Godin, c'est celle du renouvellement de cet air via les caves. Les caves sont les véritables poumons de l'habitation.
Alors les habiletés techniques, et puis parlez-nous des équivalents de la richesse. À ces ouvriers pauvres locataires, dont les salaires restent quand même s'ils sont meilleurs chez Godin qu'ailleurs, assez faibles, sont offerts des équivalents de la richesse.
Oui, il faut simple. Les équivalents de la richesse, pour Godin, sont les avantages que la fortune accorde à ceux qui ont la fortune. Et quels sont ces équivalents de la richesse ? C'est l'éducation, c'est l'hygiène, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est le confort. C'est une donnée très importante pour Godin, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de réforme sociale pour un fourriériste, et en particulier pour Godin, s'il n'y a pas de réforme de l'architecture, c'est-à-dire si on n'a pas transformé le milieu matériel de l'existence. C'est comme ça qu'il faut comprendre toutes ces innovations technologiques au service du domestique.
Dans la grande cour vitrée sont rassemblés les enfants qui partent à l'école au vu de tous chaque matin. La formation, elle passe aussi par la moralisation des parents.
Absolument, une question importante pour Godin, absolue, c'est la transformation de l'être humain. Et l'éducation est un moyen, non seulement de former des hommes nouveaux au travers du système scolaire très performant des écoles du familistère, mais aussi d'influencer le milieu familial. C'est via les enfants qu'on va réformer les parents, si je puis dire.
Parce que les inégalités se creusent de suite, d'où l'idée de crèche, d'où l'idée de Poupona avant même le Bambina.
Oui, il y a un système scolaire très étendu. Depuis, l'enfant est pris en charge depuis l'âge de 15 jours jusqu'à 14 ans, le moment où il pourra entrer dans le monde du travail.
Alors, vous venez de rouvrir le théâtre, qui est assez austère. Ça fait partie aussi des équivalents de la richesse, où les sièges sont un peu spartiates. À l'école, les bancs sont adaptés à la voussure du dos des élèves.
C'est toujours cette même question du confort et du bien-être matériel. Le raisonnement de Godin est simple. Pour bien apprendre, il faut être bien installé. Et pour être bien installé, il faut que le mobilier soit adapté à chaque classe d'âge, car l'enseignement dans les écoles du familistère se faisait de façon moderne, par classe d'âge. On ne mélangeait pas les enfants de différents âges dans les mêmes classes. Et Godin va prendre 6 points de mesure sur les 400 élèves, les 400 enfants du familistère, et va dessiner 4 classes de bancs pupitres qui vont équiper les écoles du familistère.
Alors c'est si extraordinaire d'habiter là que pour Jean-Baptiste André Godin lui-même, il n'y a pas d'hésitation, il va s'installer le patron dans son familistère. C'est pas exactement la vie de sa première femme, Esther, et de son unique fils, Émile, qui a passé le temps de l'école et qui ne lui apporte que des déceptions.
Vous savez d'ailleurs que nous allons nous installer au familistère.
Oh, voyons, tu n'y songes pas.
Mais si.
Mais enfin, tu ne vas tout de même pas obliger ma mère à vivre dans cette promiscuité.
Promiscuité ? Mais je vis dans la promiscuité de ceux qui travaillent avec moi, pour moi, et grâce auxquels vous avez tout ça. Et ce que vous portez sur vous, tes cravates de soie, ce n'est pas toi qui les gagne, mais eux.
Oh, je t'en prie.
J'ai été un ouvrier, ne l'oublie jamais, Esther. Moi, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est au milieu d'eux que je suis heureux, parce que je le ressens, même si je suis leur patron.
Esther va se séparer de Godin.
Esther va se séparer de Godin et lui mener la vie dure, parce qu'il y aura un procès, un très long procès qui menacera même l'existence du familistère, puisqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Donc...
Elle préférerait peut-être confier les écoles du familistère aux jésuites et aux frères ignorantins.
Probablement, comme le dit Godin. Elle supporte aussi difficilement que la directrice des écoles du familistère soit Marie Moret, donc la petite cousine de Godin, qui deviendra sa collaboratrice.
Vous avez bien recommandé de noter le nom de Marie Moret.
Oui, tout à fait. Qui deviendra sa collaboratrice, puis sa compagne. Et enfin, quand la séparation et quand avec Esther Lemaire sera prononcée, qu'Esther Lemaire, la première femme de Godin, sera morte, il se mariera avec Marie Moret.
Vous voulez dire qu'il a partagé la couche de Marie Moret et pratiqué pratiquer l'union libre au vu et au su de tous longtemps.
Absolument, mais nul n'est tenu d'être marié pour habiter le palais social. On peut y vivre librement. C'est pour ça qu'à certaines périodes de l'existence du familistère, on l'a pris pour un lupanard, en référence aussi à la théorie des passions de Fourier, naturellement, où l'amour se pratique librement. Ce qui n'est pas du tout le cas au familistère, mais il y a une tolérance à l'égard du mariage civil qui est pratiquée.
Non, mais on ne faisait pas du tout tourner les partenaires au familistère, on faisait tourner les tables.
On fait tourner les tables parce que Godin pratique le spiritisme comme beaucoup de ses contemporains et pas mal de socialistes, mais il le fait en industriel. Godin est un homme de l'efficacité, donc il invente une machine à retranscrire la voix des esprits plus rapidement que ne peuvent le faire les systèmes traditionnels.
Enfin, on voit quand même les difficultés auxquelles il se heurte. Il est parfois assez isolé, ses livres circulent, mais peu. L'intelligentsia de la capitale vient en visite, mais un Zola, par exemple, ne sera pas convaincu. Et puis, le bon sens populaire, il est encore plus difficile à convaincre que Zola.
Chers amis, je viens d'être embauché dans une place qui est vraiment si belle que je trouve rien à lui reprocher. Le patron lui-même est un modèle. Il veut pas nous voir travailler, de peur que ça fasse tomber notre graisse, et comme il ne pense qu'à nous payer, toutes les heures, on passe à la caisse. L'autre jour, il nous dit, mes enfants, il va falloir que je vous augmente, sans ça, je vois bien qu'au bout de quelque temps, je finirai par avoir des rentes. Que j'ai, je vous le donne sans détour, ça sera peut-être pas encore le rêve, mais ça vous fera 20 francs par jour à bouffer quand vous serez en grève.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Frédéric Pagny, nous parlons aujourd'hui du familistère de Guise, utopie en partie réalisée. Le patron se heurte parfois au bon sens des ouvriers. La chanson qu'on vient d'entendre, elle est tardive. Elle date d'après la mort de Godin. Elle est interprétée par Paul Lac. Dans les dernières années de sa vie, dans les années 1880, Godin tire un dernier fil de la pelote fourriériste avant l'abolition du salariat. Il rêve de l'association du capital et du travail. Nous sommes dans le théâtre que vous venez, Frédéric Pagny, de rouvrir le 17 juin 2011 et où ne se sont pas déroulés du temps de Godin que des parties de plaisir.
L'usine appartiendra aux travailleurs.
Est-ce que tous les ouvriers de l'usine feront partie de l'association ?
Non. Ceux qui auront moins d'un an de présence ne participeront pas aux bénéfices. Ils seront d'abord auxiliaires. Et puis plus tard...
C'est cela. C'est bien ce que je pensais. L'inégalité est à la base de votre projet.
Les mérites et le talent ne sont pas identiques chez tous. Faut en tenir compte.
J'en ai assez de vos règlements, de votre autorité. Vous voulez tout contrôler vous-même.
Mais chacun est libre ici.
Libre ? Dans Stade Brique, libre ! Mais sur les galeries, tout le monde surveille tout le monde. Le familistère est une prison de verre. Confortable, certes, mais une prison quand même.
Eh bien, va-t'en si tu n'es pas content. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un pour te remplacer.
Oui, je m'en irai. Mais n'oubliez pas, entre un patron et des ouvriers, il n'y aura toujours que de la haine, sauf pour les rêveurs.
En août 1880, Godin fonde l'association coopérative du capital et du travail. C'est le titre complet de cette association coopérative de type fourriériste. C'est le couronnement de l'expérience familistérienne. Il faut rappeler que ce familistère est une expérience, c'est la meilleure façon de le définir, une expérience sociale très aboutie, très complexe. Et le palais social n'en est que la préparation de cette expérience coopérative, qui consiste à faire passer la propriété de l'ensemble, l'usine et les habitations, aux mains de ceux qui travaillent et habitent au familistère, c'est-à-dire d'organiser une démocratie sociale à l'échelle du familistère comme l'exemple d'un socialisme qui pourrait se répandre dans toute la nation et au-delà naturellement. C'était l'objectif de ces socialistes expérimentaux que sont Fourier ou Cabet ou avant eux les Écossais.
Mais dites-moi, Frédéric Pagny, vous parlez de démocratie sociale. Une voix égale vraiment une voix? Il y a la méritocratie qui intervient. Ce n'est pas un égalitariste, Godin, comme le dit un de ses contestataires dans la séance du théâtre en 1880.
Non, tout à fait, ce n'est pas un égalitariste parce qu'il est fourriériste. Et pour les fourriéristes, les natures humaines sont différentes. Le communisme, pour un Godin, est une réaction, mais une réaction qui peut se comprendre, mais ne peut pas être un principe de construction d'une société. La société, elle va se construire selon la nature, les natures différentes des individus, et à chacun selon ses besoins, mais à chacun aussi selon ses talents. C'est l'autre terme de l'association qui n'est pas dit dans l'intitulé de l'association de Guise, l'association du capital, du travail et du talent.
Dites-moi, 1888, après sa mort, il avait tout prévu, Godin, sauf que ses successeurs, avec la même structure qu'il avait fondée, feraient le choix de la prospérité plus que de l'élargissement du familistère qui va devenir une sorte d'enclave, une enveloppe étanche.
Il y a incontestablement un essoufflement de l'esprit coopératif au familistère. Cette expérimentation, elle fonctionne avec impulsée par Godin, avec le dynamisme que veut bien lui donner Godin. Et c'est vrai que les générations passant, les associés qui constituent l'élite de l'association vont avoir tendance à défendre les avantages acquis, comme on pourrait dire, et donc se replier sur eux-mêmes.
Surtout qu'on peut rester, quand on est retraité, au familistère. Et alors du coup, comme on ne construit pas de nouveaux pavillons en plus des cinq, eh ben, il y a un rapetissement.
Il y a un rapetissement, il y a un engorgement, parce que pour devenir associé, donc pleinement associé à l'association coopérative du capital du travail, il faut habiter, c'est un fait social fondamental. Et si on ne peut pas construire davantage, on ne peut pas accueillir de nouveaux habitants, donc de nouveaux associés.
Donc dans la ville de Guise, qui va devenir communiste dès 1929, les familistériens sont vus comme une aristocratie.
Absolument, comme une aristocratie ouvrière. En résumé, au XXe siècle, les familistériens, les associés du familistère votent socialiste, tandis qu'en ville, on vote communiste.
Et puis, le modèle industriel s'essouffle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le coup de grâce est porté. En 1968, c'est un paradoxe, une grande société rachète l'usine Godin qui existe toujours. Les équipements collectifs sont dispersés et fermés. Les appartements deviennent des copropriétés banales qui vont se dégrader.
Qui vont se dégrader jusque dans les années, à la fin des années 1990, moment où un grand programme de valorisation sera mis en place par le Conseil général de l'Aisne.
Eh bien, on va terminer là-dessus en fanfare. Il y a toujours des harmonies à Guise. Il y en avait une au familistère. Elle a fermé en 1968, mais la résurrection vient. Le principe de la résurrection qui est porté par quelques hommes, il n'y a pas que vous, il y a Jean-Pierre Belligan, le député de l'Aisne, il y a Jean-Loup Pivin, il y a le Conseil général qui finance largement, c'est que ça ne devienne pas un musée comme les autres. Le visiteur qui va visiter une partie qui est muséifiée comme un habitant, et l'habitant est encore là.
L'habitant est encore là, c'est un lieu de mixité d'usage. Les écoles fonctionnent en école, les jardins sont des jardins publics. Le théâtre réouvert fonctionne comme théâtre. Et au milieu de tout ça, sont des visiteurs qui finalement se comportent comme des habitants. Le musée est partout et nulle part, aussi bien dans les pivoines du jardin que dans les salles d'exposition.
Vous avez parlé du jardin parce qu'il y a des jardins partagés, bien sûr. Et puis, il y a des jardins d'agrément au bout desquels est la tombe de Godin et de Marie Moret.
Oui, le mausolée de Godin est érigé au fond du jardin d'agrément. Sur le coteau de l'Oise et domine le palais. C'est un très beau lieu, ce jardin d'agrément, plus un jardin contemporain, un grand jardin contemporain de 10 hectares qu'on appelle le jardin de la Presqu'île.
Un beau compliment est fait par Jean-Christophe Vailly dans son beau livre « Voyage en France ». Le visiteur n'est pas bloqué au stade du réflexe. Il ne dit pas « Ah oui ?» Il est surpris. Il dit « Ah bon ?» Et puis il peut mettre le registre du curseur, le pousser comme il veut.
Oui, c'est intéressant d'entendre ça parce que la muséographie qui est développée au familistère avait ça comme ambition, de susciter des questions plus que de raconter une histoire toute faite.
Qu'au familistère de Guise, que vous pouvez rejoindre cet été, le plaisir de chacun soit augmenté. Merci à vous, Frédéric Pagny.
Merci à vous, Jean-Louis.
Par le plaisir de tous. L'émission a été préparée par Clarisse Le Gardien, avec aujourd'hui à la réalisation exceptionnellement Caroline Le Bosset, qui avait un célébrissime poil Gaudin dans son foyer, à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Demain, nous irons sur le canal de Nantes à Brest.